Chapitre 3. Nous avons devant nous une fameuse journée, dit M. Job à son chien, comme ils prenaient ensemble leur frugal déjeuner le lendemain matin. Tu feras bien de manger de provisions, mon vieux, car tu n'auras rien à te mettre sous la dent jusqu'à la fin des consultations à 4 heures. Je vais sortir pour régler cette affaire avec Arthur Piquet. Ce n'est pas mon système de laisser les gens sur le ballon. Il va savoir à quoi s'en tenir. Ainsi, Gribouille, tu monteras la garde jusqu'à mon retour comme un vieux soldat. Pas de querelle avec Alexandre, tu m'entends? Il t'agace un peu avec ses airs d'importance. Ne t'en inquiète pas, mon brave, laisse-le s'ennuyer solennellement puisqu'il y trouve son plaisir. Certaines gens qualifiaient d'absurde cette coutume de M. Job de traiter ses pensionnaires à poil ou à plume comme des créatures raisonnables et de leur parler sans cesse. Mais lui-même y voyait un double avantage. D'abord, disait-il, mon chien aime ça. Il comprend mon intonation, sinon mes paroles. Sans parler à un animal, vous ne sauriez l'apprivoiser et développer son intelligence. En même temps, c'est un besoin pour moi-même de communiquer mes impressions à un être quelconque. Dans ma solitude, j'aurais désappris à parler si je n'avais trouvé en mon chien le plus complaisant des auditeurs. Je mets mes idées au clair en les énonçant, je débrouille ma logique, je tire des plans, je m'accorde parfois le luxe d'une tirade misanthropique sûre de la discrétion de mon confident, ce qui est plus qu'on en peut dire des confidents ordinaires. Arthur Piquet me suppose donc bien en fond, se disait M. Job en suivant le sentier que 2 jours auparavant il parcourait avec Virginie. 200 francs demain, c'est court et net, un charmant billet d'homme d'affaires. Il a pourtant négligé de m'indiquer un lieu de rendez-vous. Peut-être voulait-il, par courtoisie, laisser ce point à mon choix. Si je descendais le long du ruisseau, leur champ de pommes de terre est tout près. J'y verrai sans doute quelqu'un de chez eux et j'en verrai le quérir, car il ne semble pas faire le grand mystère de ses transactions. Mais voici que dans le champ de pommes de terre se trouvait ce pratique jeune homme lui-même. Il y était venu de bonne heure, plein d'espoir, et s'applaudissait de son ingéniosité. De cette partie du domaine, on apercevait la maison de M. Job et tous les sentiers qui y aboutissaient. C'était un excellent poste d'observation. « Le voici !» pensa Arthur, découvrant le docteur qui descendait lentement la pente jusqu'au bord du ruisseau. « Est-ce qu'il m'a vu ?»« Oui, il me fait signe. »« On y va ! On y va !» Il ne me tient pas le bec dans l'eau trop longtemps, c'est un homme expéditif. J'aime ça. Je m'étonne s'il a la somme en or. Ça m'épargnerait une course au village chez le changeur. Je n'accepte plus de billets maintenant, c'est une valeur trop combustible. Même en écu de 5 francs, ça m'arrangerait encore, bien que ce soit un peu lourd. Persuadé qu'il était des mortels le plus rond en affaires et le plus obligeant, il s'empressait de répondre aux signes impatients de M. Job, qui se souciait peu de consacrer beaucoup de temps à cette entrevue. « Diantre, il a la somme en billets !» pensa Arthur en écartant les branches des saules pour arriver au sentier. « Si c'était en écu, il aurait un petit sac. Enfin, nous verrons. »« Eh bien, » fit-il en se plantant devant le docteur, « donnant, donnant. Si vous avez la chose sur vous, il se peut que j'ai la chose sur moi. Allongez votre patte, j'allongerai la mienne. De l'ensemble dans les mouvements, il faut ça. » Il essayait de prendre un ton dégagé, mais son assurance cachait mal certains pressentiments de défaite. Monsieur Job était grave et ne remuait pas. « Allons, décrochez !» s'écria Arthur avec impatience. « Si vous avez besoin d'espèces, vous feriez mieux d'entreprendre notre commerce. » dit M. Job tranquillement. « Nous n'achetons pas. »« Ah, vous nâche !» Arthur s'arrêta court. Sa déception l'étranglait. « Non, nous n'achetons pas. Ce serait faire tort à notre honneur, aussi bien qu'au vôtre, jeune homme, si tant est que vous teniez cet article. Je suis venu exprès pour vous le dire et pour vous prier encore une fois d'écouter votre dignité plutôt que votre rancune ou votre avarice. » « Rendez la paix à Virginie. Si elle vous a désappointé, si elle s'est montrée peut-être inconséquente, vous l'avez assez punie. Un bon mouvement, mon garçon. Je vous assure qu'ensuite, vous serez content de vous-même, comme les autres contents de vous. » Arthur Piquet restait là, les yeux fixés au sol, les dents serrées. Tous les traits de sa figure déjà pointue semblaient s'aiguiser. Il était devenu pâle. Car ses colères à lui étaient de la pire espèce, des colères blanches et muettes. Sa mauvaise rancune contre Virginie, sa haine pour Ferdinand, le sentiment d'être joué et de n'inspirer que du mépris au docteur, la blessure cuisante que la perte du billet avait faite à son avarice, le désir furieux de se venger n'importe comment, toute cette rage et toute cette méchanceté contractaient à tel point son visage que le docteur se tint sur la défensive. Mais son adversaire n'était pas de ceux qui attaquent en face. Les yeux toujours baissés, les lèvres blanches, Arthur Piquet murmura « Il l'aura pour rien, cette lettre, pour rien !» Puis il remonta le sentier, aussi froid et impassible qu'un marbre, en apparence, mais la figure étrangement décomposée. M. Job le regarda s'éloigner. Comme il atteignait le sommet de la petite éminence, il trébucha tout à coup sur une pierre, se baissa et porta la main à sa cheville, comme s'il éprouvait une vive douleur. Mais il se redressa aussitôt et disparut dans le champ. « C'est la guerre !» pensa M. Job en retournant chez lui. « Seulement, l'ennemi nous prendra par derrière, il faut s'y attendre. La meilleure tactique serait d'entrer bravement sur son territoire et de le prévenir en faisant exactement ce qu'il médite de faire. J'exhorterai Virginie à prendre courage, à tout raconter à Ferdinand. Pour l'amour d'elle, il ne fera pas d'esclandre. C'est vexant tout de même. Nous sommes battus, la bonne cause doit baisser pavillon. » Et puis, j'en suis fâché pour ce garçon lui-même. Il prend un mauvais chemin dont j'aurais voulu lui aider à sortir. En arrivant chez lui, M. Job trouva sa cuisine déjà transformée en antichambre par les soins du domestique qui avait rangé des bancs le long de la muraille et placé sur la table quelques journaux destinés à faire prendre patience aux attendants. Ceux-ci, installés depuis une demi-heure, sous la surveillance polie mais constante de Gribouille, se consolaient de leur faction par la pensée qu'ils seraient les premiers admis. « Bonjour, » dit M. Job, en les passant en revue d'un regard vif qui détaillait à chacun d'eux de la tête aux pieds. « Vous vous êtes levé de bonne heure, moi aussi. Commençons tout de suite. » Il entra dans sa chambre, suivi par un brave homme un peu gênant, affligé d'une méchante femme et de rhumatisme, et qui avait besoin de sympathie plus encore que de remède. M. Job lui donna l'un et l'autre, écouta patiemment ses doléances et le renvoya tout réconforté. Plusieurs autres suivirent, les uns prolixes et confus dans leurs explications, d'autres si abattus que chaque mot semblait leur coûter un effort. Une mère anxieuse, un pauvre homme évidemment poitrinaire, puis un buveur d'absinthe qui s'étonnait d'avoir la face violette et la mémoire embrouillée. Ensuite vint une jeune fille amenant son petit frère qui s'était avisé, l'ingénieux enfant, de se fourrer un caillou dans l'oreille et qui découvrait un peu tard que la chose avait des inconvénients. Il poussa des cris affreux en voyant un instrument de forme alarmante s'approcher dans la main du docteur. Alors M. Job s'en fut quérir Alexandre, qui vint à la rescousse et dont la queue à trois plumes divertit si bien le petit bonhomme que, l'opération terminée, il cria de plus belle pour emporter le corbeau. « Envoyez-moi le numéro suivant, » dit M. Job à la jeune fille, qui, toute confuse, s'esquivait avec le petit braillard suspendu à sa jupe. Le numéro suivant était Virginie Duval. « Vous ?» s'écria le médecin un peu surpris. « Oui, moi. J'étais si impatiente, je n'en ai pas dormi. Eh bien, l'avez-vous vue ? Qu'a-t-il dit ? Où est la lettre ?» Elle parlait avec une vivacité qui ne lui était pas ordinaire. Ses yeux étaient trop brillants pour qu'il n'y eût pas un peu de fièvre dans leur éclat. Une tache rouge sur chacune de ses joues contrastait avec la blancheur du reste du visage. « Où est la lettre ?» répéta-t-elle en avançant la main. « Il ne veut pas la rendre, » dit M. Job avec chagrin, car il voyait son anxiété. « Il ne veut pas ?» La petite main un peu brunie retomba. « Non, dit M. Job, car nous ne ferons pas de bassesse pour l'obtenir. Et maintenant, mon enfant, je ne sais trop ce qu'il médite, mais il y a un moyen bien simple de vous mettre au-dessus de ces complots. Racontez tout à Ferdinand et sans retard. Vous n'avez pas commis de crime, allons donc.
Je ne peux pas, je ne peux pas. Je lui ai laissé dire si souvent que nous avions été l'un pour l'autre notre premier et seul amour. Il croira que je l'ai trompé.
Il ne croira rien de pareil, il comprendra. Ne perdez pas de temps, Virginie, sinon Arthur parlera le premier et les conséquences seront plus graves.
« Oh, cette lettre » murmura-t-elle. « Si je l'avais, tout serait plus facile. Je ne craindrais pas tant la colère de Ferdi. Je la lui montrerai moi-même, il la brûlerait et peut-être qu'ensuite il me pardonnerait. Mais maintenant, au premier mot que je lui dirai, il partira comme la foudre, tombera sur Arthur et fera une scène terrible. Mon père l'apprendra et tout le monde. On me regardera en riant par derrière, on fera des histoires. Ferdi ne pourra plus m'appeler sa rose blanche.
Elle cacha son visage dans ses mains et pleura. Ma pauvre enfant, dit Monsieur Job, vous me faites grand peine. Voulez-vous que je parle à Ferdi? Elle secoua la tête.
Non, merci, c'est moi qui l'écoute le mieux. Il vient ce soir, je tâcherai d'avoir du courage. Au revoir, monsieur Job, vous avez été très bon. »
Elle sortit, laissant le médecin reprendre le cours régulier de ses consultations, mais les malades de monsieur Job le trouvèrent distrait ce jour-là. Ses pensées retournaient sans cesse à la scène du matin. Eût-il été plus sage d'en passer par les conditions d'Arthur Piquet? N'est-il pas des circonstances où la vertu la plus rigide peut dévier un peu de la ligne droite? Il n'est pas permis de faire du mal pour qu'il en arrive du bien, se disait monsieur Job. J'ai suivi le précepte à la lettre. J'avais le dénouement entre les mains, mais je lui ai donné la volée. Nous ne pouvons plus compter sur rien maintenant, sauf sur l'imprévu, le grand maître qui débrouille les situations ou tranche le nœud d'un coup. Peut-être fera-t-il quelque chose en notre faveur. Le soir vint, M. Job, las et préoccupé, sortit pour sa promenade habituelle. Il avait fait très chaud pendant tout le jour. Au fond de l'horizon, les montagnes avaient cette teinte d'un bleu noir qui annonce l'orage. Une lourde masse de nuages ardoisés montait lentement dans le ciel. De temps en temps, un éclair y brillait, vague encore, comme une sorte de frémissement lumineux. Avec l'air chargé d'électricité, il semblait qu'on aspirât une sorte de malaise, le désir inquiet d'un grand éclat de foudre qui purifia l'atmosphère. De l'autre côté de la prairie, le long d'un sentier que bordait une haie d'aubépine, Virginie Duval marchait lentement au bras de son fiancé, tremblante dans l'attente d'un autre orage que sa confession allait faire éclater. Monsieur Job reconnut de loin le jeune couple et le suivit d'un regard anxieux. « Pauvres enfants, pensa-t-il, leur paix à tous deux peut dépendre de cette heure-ci. » Il s'assied au pied du petit mur écroulé pour les observer à distance sans déranger leur tête-à-tête. C'était un couple charmant. Ferdinand Lardy, inclinant légèrement sa haute et robuste taille, tendait les deux mains à sa jolie fiancée pour lui aider à passer le ruisseau. Elle posait sur les pierres mouillées la fine pointe de son pied, avec une hésitation gracieuse qui lui donnait l'air d'un oiseau effarouché. « Poltronne, disait Ferdi en riant, veux-tu que je te porte? Veux-tu? Dis !» Puis, comme elle ne répondait rien, et passait les yeux baissés, il craignit de la voir offensée. « Je ne te voudrais pas plus brave, vois-tu, ça n'irait pas avec tes cheveux blonds et tes airs de petite fleur. Te protéger, c'est mon affaire. » « Si j'ai le pied ferme et les bras solides, c'est pour t'aider, c'est pour te défendre tout le long de la vie. Malheur à celui qui oserait seulement te regarder mal à propos. »«
Oh, Ferdi !» s'écria Virginie, « ne parle pas ainsi, tu m'effraies. Tu es trop violent, sais-tu? Quand je suis avec toi, j'ai toujours peur que quelqu'un, comme tu dis, ne me regarde mal à propos. »
Ce quelqu'un-là ne s'est pas encore montré, dit Ferdinand en secouant sa tête brune avec un geste de lion débonnaire. On sait que tu es à moi. Et d'ailleurs,
personne ne voudrait te froisser du bout du doigt seulement, ma pauvre petite rose blanche. « Tu crois ? » dit-elle tristement. Il tressaillit. « Est-ce qu'on t'a fait du chagrin ? » demanda-t-il en s'arrêtant brusquement. Le mur qui bordait la propriété de M. Job les séparait seuls de la pente gazonnée où deux petits sapins se dressaient fraternellement l'un à côté de l'autre. Le regard distrait de Virginie glissa sur eux et s'y fixa tout à coup. « Ferdi ! » s'écria-t-elle, « on m'a changé mon petit arbre, ce n'est plus le même !»« À quoi le vois-tu ? » demanda-t-il en s'efforçant de prendre un air indifférent. « Le mien avait un gros nœud dans l'écorce au-dessous de la première branche. Le tronc de celui-ci est beaucoup plus lisse. L'autre, ton sapin à toi, n'a pas été touché. Il est fort et droit comme à l'ordinaire. Il ne semble pas même regretter son pauvre petit compagnon qu'on lui a enlevé pour le remplacer par un autre. Oh, Ferdi, quel présage ! Quel présage !»
Elle avait quitté le bras de son fiancé comme si elle aussi devait céder la place. J'ai bien mal réussi, dit le jeune homme d'un air contrarié. C'est moi qui ai fait cela, Virginie. Je voulais t'épargner du chagrin. Ton petit sapin jaunissait, il allait dépérir. Alors j'en ai planté un autre, aussi pareil que possible au premier. Mais il n'y a pas dans la forêt deux arbres qui se ressemblent exactement, comme il n'y a pas sur un arbre deux feuilles semblables. Une larme glissa lentement sous les paupières baissées de Virginie et le long de sa joue blanche. La jeune fille essayait de se recueillir avant de parler.
« Ferdinand, commença-t-elle, tu es très bon pour moi, trop bon. Si tu l'étais un peu moins, je serais plus contente. »
« Pour un heureux couple qui s'en va le long des aubépines, vous n'avez pas l'air bien réjoui, » fit derrière eux une voix moqueuse. Ils tournèrent la tête. Arthur Piquet s'avançait dans le sentier, le menton haut, l'air provocateur, frappant de sa canne les herbes à droite et à gauche. Son méchant regard s'arrêta sur la jeune fille. « Tiens, tiens, Ferdinand, tu fais déjà pleurer Virginie. Tu as tort, ma foi. Des yeux rouges, c'est laid comme tout. »« Passe ton chemin, » répondit Ferdinand, comme on pouvait s'y attendre. « C'est ce que je fais, tout piano et sans te demander permission. » « Et vous, belle Virginie, est-ce que vous voulez aussi que je passe mon chemin ?» La jeune fille leva sur son tourmenteur de grands yeux mornes dans lesquels il n'y avait plus ni supplication ni frayeur et qui semblait dire « Allez, allez jusqu'au bout maintenant, finissons-en !» Ferdinand fronça le sourcil, mais voyant la pâleur de sa fiancée, il se contint et dit avec mépris « Ton vilain museau de singe ne vaut pas un coup de poing !» « Allons-nous-en, Virginie !»« Vilain museau !» répéta Arthur exaspéré, car la vanité était un point sensible chez lui. Virginie avait donc bien mauvais goût, car elle l'aimait assez autrefois, ce museau. « C'est très probable !» fit son interlocuteur avec un rire dédaigneux, car l'idée lui paraissait simplement absurde. « Très probable, n'est-ce pas, Virginie ?» La jeune fille secoua la tête, incapable d'articuler un mot. « Elle ne dit pas non, ricana Arthur, mais voilà, souvent, femme varie. » Il n'alla pas plus loin, car Ferdinand, plein de colère, s'élança sur lui. « Ah, tu en veux !» s'écria Arthur. Sa canne siffla dans l'air et s'abattit sur l'épaule du jeune homme, qui fléchit sous ce coup imprévu. « Le lâche ! Il a une canne plombée !» s'écria Ferdinand. Mais sans se soucier du danger, et se redressant aussitôt, il s'avança une seconde fois contre Arthur. Celui-ci recula de deux pas pour se mettre en garde, leva sa canne, recula encore, puis, tout à coup, agitant les bras, tomba à la renverse et roula ignominieusement dans le champ voisin. Le sentier était élevé en chaussée par un petit mur de soutènement. Arthur Piquet, dans sa reculade, ne s'était pas aperçu qu'il arrivait à l'extrême bord du terre-plein. Il avait fait un pas de plus en arrière, un pas dans le vide, et cette prosaïque catastrophe mettait fin à ses intentions belliqueuses. « En règle, » dit Ferdinand, voyant son ennemi à terre, et trop généreux pour rester là à contempler sa défaite. « Allons-nous-en, Virginie, tu es toute pâle. » Que faisait donc M. Job ?
qui, de loin, avait suivi toute la scène, se demandant à chaque instant s'il devait intervenir. « C'est le dénouement, se disait-il, je n'ai rien à y voir. On n'arrête pas un engrenage en y fourrant son petit doigt. Est-ce que Virginie va s'évanouir dans ce mélodrame ? Non, elle tient bon, la pauvre petite. Comment, des coups, une canne ? Ferdinand ? Oh, quelle dégringolade ! Bravo !» Il ne put s'empêcher de crier ce bravo à pleine voix, puis, voyant que le vaincu ne faisait pas mine de se relever, il fut saisi d'une certaine inquiétude. Sautant par-dessus le mur, il traversa le pré en toute hâte. Arthur Piquet avait poussé un cri en tombant, puis n'avait plus rien dit. « Il ne saurait s'être blessé dans cette terre molle, » fit M. Job en s'approchant. « Hé, Arthur ! Arthur ! » Évanoui de peur sans doute. Le jeune homme était étendu, les bras en croix, livide et la bouche ouverte, ce qui ne le rendait pas plus beau. Un de ses pieds était replié bizarrement sous l'autre jambe. « Oh !» murmura le médecin, « c'est le pied droit. Je comprends. »« Ferdinand ! Ferdinand !» appela-t-il à pleine voix. Celui-ci, qui s'éloignait avec Virginie, tourna la tête et revint à contre-cœur. Mais, voyant son rival pâle et insensible, il ne fit qu'un saut du sentier dans le champ. « Qu'est-ce que c'est ? Rien de grave, j'espère ? » s'écria-t-il avec inquiétude. « Non, non, une foulure, voilà tout !» répondit M. Job, qui tâtait la cheville du blessé. « La douleur a été aiguë, c'est ce qui lui a fait perdre connaissance. Mais il en revient déjà, voyez. » Arthur ouvrit lentement les yeux et les referma aussitôt avec une plainte. « Transportons-le chez moi, » dit brièvement M. Job. « Soulevez-le par les épaules, Ferdinand. » Et, doucement, avec toutes sortes de précautions pour lui épargner des secousses, ils élevèrent le blessé jusqu'à la hauteur du petit mur, qu'ils escaladèrent ensuite eux-mêmes. À 100 pas, Virginie se tenait arrêtée, pleine d'inquiétude et le cœur tremblant, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Faites-lui signe de venir, » dit le docteur à demi-voix, « j'aurai besoin d'elle. » Le ciel s'était complètement obscurci. Les masses nuageuses glissaient lourdement les unes devant les autres, comme des forces ennemies qui se défient avant de combattre. Soudain, la lumière aiguë d'un éclair les déchira toutes, suivie d'un coup écrasant et sans écho. Puis, comme si c'eût été un signal, le ciel s'illumina de clartés livides et frissonnantes qui jaillissaient tout à coup des nuées compactes et semblaient ensuite s'y replonger. Un roulement grave et continu montait de tous les points de l'horizon. Sous cette lumière blafarde et fantastique, les deux hommes portant leurs blessés et la jeune fille pâle qui les suivait avaient l'air d'un cortège funèbre. Ils atteignirent en quelques minutes la maison de M. Job. « Attendez-moi dans la cuisine, Virginie, » dit le docteur. « C'est bien, » reprit-il, quand Arthur fut étendu sur le canapé, la tête soutenue par un coussin. « Allez maintenant rejoindre votre fiancé, Ferdinand. Dans quelques minutes, j'aurai à vous parler. » Resté seul avec son patient, il déchaussa le pied blessé et secoua silencieusement la tête. « Mauvaise entorse ?» demanda Arthur faiblement. « Très mauvaise. Vous étiez à peine rétabli de la première. » Le jeune homme poussa un gémissement. « Allons, remettez-moi ça au plus vite, que ce soit fait !» Mais le docteur ne remuait pas. « Vous êtes entre mes mains, » dit-il gravement. Et tout d'un coup, Arthur comprit. Une expression de haine impuissante passa sur ses traits, comme un nuage plus noir que ceux de l'orage qui grondait au dehors. Il serra les poings, se mordit les lèvres et ne répondit rien. « Vous me comprenez ?» reprit M. Job. « Ne craignez pas que j'abuse de l'état où vous êtes pour vous enlever cette lettre par violence, si tant est que vous la portiez sur vous. Vous me la remettrez volontairement. »« Jamais !» murmura le patient, dont la bouche se détendit en un méchant sourire. Sans répliquer un seul mot, M. Job se retira dans l'embrasure de la fenêtre et l'on n'entendit plus que le grondement sourd de l'orage qui s'éloignait. « Ah, ça !» s'écria Arthur au bout de quelques minutes. « Allez-vous me remettre cette entorse, oui ou non ? Si l'enflure augmente, ce sera toujours plus difficile. Quand serez-vous prêt ?»« Jamais !» répondit calmement M. Job. Il faisait trop sombre maintenant pour qu'on pût distinguer les traits des deux hommes, mais une exclamation à demi étouffée apprit à M. Job que le coup avait porté. « Docteur, reprit Arthur, on vous paiera ce que vous voudrez. J'ai fait mon prix, c'est la lettre. » « Mais si je ne veux pas, moi !» s'écria le patient avec une exaspération croissante. « Vous allez donc me laisser souffrir ici comme un chien ?»« Non, » dit M. Job en détournant la tête, car cette discussion l'écœurait. Il avait peine à tenir bon. Les honnêtes gens sont mal habiles à combattre les méchants avec leurs propres armes. « Non, Ferdinand et moi, nous allons vous emporter chez vous et vous pourrez faire appeler un médecin. » Mais, aussi vrai que je vous ai soigné une première fois, je ne vous soignerai pas une seconde, sauf aux conditions que je vous ai dites. » Arthur ne répondit pas. Il pensait à ses souffrances de l'hiver précédent, à son entorse mal remise qui avait failli le laisser boiteux, aux longues semaines qu'il avait passées confiné dans sa chambre, et à la guérison enfin, qui s'était opérée lentement mais sûrement, grâce au traitement habile de M. Job, appelé en désespoir de cause. Il revit tout cela avec une acuité de souvenir presque aussi douloureuse que la réalité. Il fit un mouvement, sa jambe endolorie lui parut aussi lourde que si elle eût été de pierre. Cette sensation, il la connaissait trop bien. Une sorte d'angoisse le saisit, la crainte de la douleur physique et peut-être aussi, qui sait, un retour de conscience. Car l'accident qu'il avait arrêté au milieu de ses plans de vengeance ressemblait fort à un châtiment. Il se souleva avec peine, tira son portefeuille. « La voilà !» dit-il sourdement en tendant au docteur une feuille froissée. Celui-ci l'ouvrit et chercha la signature à la lueur des éclairs. « Très bien !» dit-il calmement. « Dans une minute, je suis à vous. » Et, passant dans la cuisine, qu'éclairait encore une lumière blafarde tombant de la haute cheminée, il trouva les deux fiancés qui l'attendaient silencieusement. Le premier regard de Virginie se fixa sur la lettre que M. Job lui tendait. Elle se leva toute droite, fit deux pas, puis, incapable de trouver une parole, elle s'inclina sur la main du docteur et la baisa respectueusement. « Maintenant, Virginie, « faites ce que vous m'avez promis, » dit M. Job. « Ferdinand, quand vous l'aurez entendu, rappelez-vous que si elle vous aimait moins, elle aurait aussi moins souffert. » Puis il les laissa, car un autre avait besoin de lui maintenant. Tandis que, rentré dans sa chambre où le blessé s'impatientait, M. Job allumait sa lampe et préparait les bandages, Arthur le suivait du regard dans tous ses mouvements, avec un air de vive appréhension. Et tout d'un coup, sa crainte cachée monta à ses lèvres. « Docteur, vous n'allez pas me faire souffrir plus qu'il n'est nécessaire pour vous venger ?» M. Job lui jeta un regard indigné. « Vous seriez peut-être capable de ça, vous » répliqua-t-il. « Moi, pas. » Puis, lorsque tout fut préparé, « Tenez-vous ferme, » dit le médecin, « conduisez-vous comme un homme. » L'opération finie, M. Job entr'ouvrit de nouveau la porte de la cuisine. « Eh bien » demanda-t-il. Ferdinand tenait les deux mains de Virginie, deux petites mains douces et frissonnantes qui ne demandaient qu'à rester bien longtemps prisonnières. « La paix est donc faite ?»« Pas tout à fait. Nous vous attendons pour la signer. » Comme ceci, acheva-t-il, en jetant au milieu des tisons rouges la malheureuse lettre qui avait coûté tant de larmes à Virginie. Une grande tache brune s'étendit d'abord au milieu de la feuille bleuâtre, puis une flamme jaillit, lécha le papier tout autour, le tordit une seconde, puis s'évanouit dans la cheminée. « Je l'ai lu, » dit Ferdinand. « Je ne voulais pas, Virginie a insisté, mais au moins elle ne pourra pas m'empêcher de l'oublier du premier au dernier mot. » « Ce que je n'oublierai pas toutefois, » ajouta-t-il en baissant la tête, « c'est que, si je vous ressemblais un peu plus, monsieur Job, c'est à moi que Virginie se serait confiée plutôt qu'à vous. » « Ah !» dit le docteur avec un sourire, « la sagesse viendra. Tâchez seulement qu'elle vous arrive avant les cheveux blancs. Et passez l'éponge sur toutes vos rancunes, Ferdinand. Arthur est assez puni, car il en a pour 4 semaines à se remettre. » « Faut-il le reporter chez lui ?» demanda le jeune homme, disposé à pratiquer le pardon des offenses d'une manière effective. Non, le temps est trop mauvais. Il passera la nuit ici. Allez-vous-en tous deux et avertissez son père. C'est sur votre chemin.
Vous êtes le bon samaritain, dit doucement Virginie.
Vous rappelez-vous, reprit Ferdinand, ce que vous me disiez l'autre jour, qu'un peu de reconnaissance vous ferait du bien? La nôtre sera de la bonne sorte, de celle qui dure, vous verrez.
Dépêchez-vous de vous en aller, interrompit le médecin, et je vais ajouter à tous mes bienfaits celui de vous prêter un parapluie, car il n'est pas nécessaire que Virginie prenne un rhume en souvenir de ce jour.
Monsieur Job resta sur le seuil pour voir les deux fiancés s'éloigner, côte à côte sur leur parapluie et aussi près l'un de l'autre que possible. Il se souciait bien, vraiment, de l'averse qui les éclaboussait, rejaillissant des flaques du sentier. Les ayant enfin perdus de vue dans l'obscurité, Monsieur Job revint à son malade. « Dormez-vous ? » demanda-t-il en s'approchant d'Arthur qui avait les yeux fermés.
« Le moyen de dormir avec des lancers dans le pied à toute minute !»«
Laissez-moi vous arranger plus commodément. Là, asseyez-vous pendant que je secoue vos oreillers. Vous êtes mieux à présent ?»«
Oui. »
Au fond, Arthur eût voulu dire merci. Un reste de rancune et une sorte de mauvaise honte le retenaient. Monsieur Job s'assit auprès de la table, arrangea l'abat-jour de sa lampe de manière à ce que la lumière ne rencontrât pas les yeux d'Arthur, puis il se mit à feuilleter un livre silencieusement. Cependant, il ne lisait pas. Il avait quelque chose à dire et il cherchait une manière brève et efficace de l'exprimer, car ce n'était pas un homme de beaucoup de paroles.
« Mon garçon, fit-il tout à coup, savez-vous qu'il y a des malheurs heureux ?»
Arthur tourna la tête, mais ne répondit pas.
« Je souhaite que le vôtre soit du nombre. Je souhaite que cette entorse ait 4 semaines de réclusion et quelque chose à vous enseigner.
Quoi, par exemple ?»«
Une petite leçon de sagesse pratique, pour commencer, c'est qu'on se pince parfois les doigts dans ses propres trébuchets. Ensuite, mon garçon, il y a des leçons plus hautes et plus difficiles dont la vie tournera les feuillets pour vous, comme elle les a tournés pour d'autres, à mesure que vous avancerez. »
Monsieur Job se tut. Ses discours n'étaient jamais très longs, surtout lorsqu'il touchait à ses expériences personnelles. Il tomba dans une longue rêverie et l'on n'entendit plus que le clapotement de la pluie au dehors.
« J'ai soif, » dit tout à coup Arthur.
« Oh !» dit le médecin en se levant, « j'aurais dû y penser. Vous avez un peu de fièvre. Je vais vous faire un verre de limonade avec un beau citron que j'ai là. » Ce breuvage rafraîchissant parut délicieux au jeune homme, qu'il se laissa ensuite retomber sur ses oreillers en disant « je crois que je vais dormir un peu. »«
Vous ne sauriez mieux faire, » répondit Monsieur Job.
Et il reprit son livre, qui n'était ce soir qu'un prétexte à rêverie. Mais il fut interrompu de nouveau.
« Docteur, fit Arthur en le regardant, vous êtes un brave homme tout de même. »
Il dit cela comme si cette confession eût été nécessaire à son sommeil, puis il ferma les yeux et tourna son visage du côté de la muraille.
« Je ne protesterai pas, murmura Monsieur Job en souriant, car cette première leçon a dû lui sembler dure à apprendre. Et si, pour un peu de peine que j'ai prise et qui ne m'a rien coûté, Virginie, la pauvre petite, est hors du souci, Ferdinand rassuré à son sujet, et ce garçon-là, rendu un brin meilleur, c'est un riche salaire. Je ne suis qu'un pauvre ouvrier parfois bien las, mais pour le travail que je puis faire, il vaut la peine de vivre. »